Puis s'était effectué le transport du corps par voie d'eau de Fontainebleau à Paris. Puis, dans la capitale même, s'étaient succédé chevauchées, veilles, offices religieux et processions interminables, tout cela par un affreux temps d'hiver où l'on pataugeait dans la boue glacée, où un vent sournois vous coupait la poitrine, où une mauvaise petite neige vous giflait le visage. Louis X enviait son oncle Valois, qui, constamment à ses côtés, décidant de tout, tranchant des problèmes de préséance, infatigable, volontaire, semblait, lui, avoir des nerfs de roi. Déjà, parlant à l'abbé Égidius, Valois commençait à s'inquiéter du sacre de Louis, qui prendrait place l'été suivant. Car l'abbaye de Saint-Denis avait la garde non seulement des tombes royales, non seulement de la bannière de France, mais aussi des vêtements et attributs portés par les rois lors du couronnement. Valois tenait à savoir si tout était en ordre. Le grand manteau, depuis 29 ans, n'avait-il pas subi de dommages? Les écrins pour transporter à Reims le sceptre, les éperons et la main de justice étaient-ils en bon état? Et la couronne d'or? Il faudrait que les orfèvres au plus tôt missent la coiffe à la nouvelle mesure. L'abbé Égidius observait le jeune roi que l'atout continuait de secouer et pensait « Certes, on va tout préparer, mais tiendra-t-il jusque-là ?» Quand le repas fut achevé, Hugues de Bouville, grand chambellan de Philippe le Bel, vint casser devant Louis X son bâton doré et signifier par là qu'il avait terminé son office. Le gros Bouville avait les yeux emplis de larmes, ses mains tremblaient, et il dut s'y prendre à 3 fois pour briser son sceptre de bois, image et délégation du grand sceptre d'or. Puis, au premier chambellan de Louis, Mathieu de Try, qui allait lui succéder dans la fonction, il murmura « À vous maintenant, messire !» Alors, la tribu capétienne sortit de table et se dirigea vers la cour où attendaient les montures. Dehors, la foule était maigre pour crier « Vive le roi !» Les gens s'étaient assez gelés la veille à regarder le grand cortège qui comprenait les troupes, le clergé de Paris, les maîtres de l'université, les corporations. Celui d'aujourd'hui n'offrait plus rien qui pût émerveiller. Il tombait une sorte de grésille qui perçait les vêtements jusqu'à la peau. Et seuls saluaient le nouveau roi quelques acharnés de la badauderie ou les riverains qui pouvaient crier du pas de leur porte sans se mouiller. Depuis l'enfance, le hutin attendait de régner. À chaque semonce, échec ou contrariété que lui attirait sa médiocrité d'esprit et de caractère, il se disait rageusement « Le jour où je serai roi !» Et 100 fois, il avait souhaité que le sort hâtât la disparition de son père. Or, voilà que sonnait l'heure qui l'exauçait. Voilà qu'il venait d'être proclamé. Il sortait de Saint-Denis. Mais rien ne l'avertissait intérieurement qu'aucun changement se fût produit en lui. Il se sentait seulement plus faible que la veille et pensait davantage à ce père qu'il avait si peu aimé. La tête basse, les épaules frissonnantes, il poussait son cheval entre les champs déserts où des restes de chaume perçaient des restes de neige. Le crépuscule s'assombrissait rapidement. À la porte de Paris, le cortège fit halte pour permettre aux archers d'escorte d'allumer des torches. Le peuple de la capitale ne fut guère plus enthousiaste que celui de Saint-Denis. Quelle raison d'ailleurs aurait-il eu de se montrer joyeux? L'hiver précoce entravait les transports et multipliait les décès. Les dernières récoltes avaient été mauvaises. Les denrées enchérissaient à mesure qu'elles se raréfiaient. Il y avait de la disette dans l'air. Et le peu qu'on connaissait du nouveau roi n'incitait pas à l'espoir. On le disait brouillon, querelleur et cruel, et le public, qui déjà le désignait par son surnom, ne pouvait citer de lui aucun acte important ou généreux. Sa seule renommée lui venait de son infortune conjugale. « C'est à cause de cela que le peuple ne me témoigne point d'affection, » se disait Louis X, « à cause de cette catin qui m'a bafoué devant tous. Mais s'ils ne veulent point m'aimer, je ferai tant qu'ils trembleront et crieront Noël en me voyant comme s'ils m'aimaient fort. Et d'abord je veux reprendre épouse, avoir une reine à côté de moi, pour que mon déshonneur soit effacé. » Hélas, le rapport que lui avait fait la veille son cousin Robert d'Artois, retour de Château-Gaillard, ne laissait pas paraître l'entreprise aisée. « La garce cédera. Je la ferai mettre à tel régime et tourment qu'elle cédera. » Comme il s'était dit dans le petit peuple que le roi jetterait les pièces de monnaie sur son passage, des groupes de pauvres se tenaient au coin des rues. Les torches des archers éclairaient un instant leurs visages maigres, leurs yeux avides et leurs mains tendues. Mais aucune piécette ne tomba. Par le Châtelet et le pont au Change, le cortège atteignit enfin le palais de la cité. La comtesse Mao donna le signal de la dispersion en déclarant que chacun avait maintenant besoin de chaleur et de repos et qu'elle rentrait à l'hôtel d'Artois. prélats et barons prirent chacun le chemin de sa demeure. Les frères du nouveau roi eux-mêmes se retirèrent, si bien que lorsqu'il eut mis pied à terre, Louis X ne se trouva plus entouré en dehors de ses serviteurs et écuyers personnels que par ses deux oncles, Évreux et Valois, Robert d'Artois, Marigny et Mathieu de Try. Ils passèrent par la galerie Mercière, immense et presque déserte à cette heure. Quelques marchands qui finissaient de cadenasser leurs éventaires ôtèrent leurs bonnets.